RFI, il est 5h30 en temps universel, 8h30 à Moroni.
RFI Matin.
Lors d'un nouveau point complet sur l'actualité africaine avec vous, Vincent Dublange. Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Inachevé, c'est le mot du jour.
Oui, le mot du jour à Moroni, vous le disiez, aux Comores, les Comores qui fêtent leur indépendance 50 années sans l'île de Mayotte. L'ensemble des Comoriennes et Comoriens qu'on a interrogés souhaitent voir cette île administrée par la France leur être rattachée. On va entendre l'une de ces voix dans quelques minutes dans le journal. Et puis notre grand invité Afrique à suivre aussi juste après cette édition. On va commencer cette édition à Libreville, au Gabon, la capitale gabonaise où hier le parti du président Oligui Nguema a été fondé sur une promesse de rupture par rapport au passé. Elle a une également le FMI qui valide une tranche d'aide supplémentaire, bouffée d'air financier à la RDC. Et puis cet espoir de discussion directe et d'un potentiel cessez-le-feu. Aujourd'hui, délégation israélienne attendue à Doha. On va en parler avec notre correspondant dans le prochain journal à 8h, quand on répond à Jérusalem, alors que les bombardements se poursuivent sur Gaza. Et cela crée des remous, vous allez l'entendre dans ce journal, au forum de sociologie qui se tient en ce moment à Rabat. Le journal des sports dans 10 minutes est la deuxième place. Maillot jaune loupé de peu hier pour l'érythréen Binyam Girmay au Tour de France cycliste. Le Gabon, donc d'abord, comme annoncé, l'Union démocratique des bâtisseurs est née. L'UDB, c'est le parti politique créé par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu hier au Palais des Sports de Libreville, devant plusieurs milliers de personnes. Il y avait une forte présence d'anciens cadres du Parti démocratique gabonais, le parti des Bongos, que l'ancien général Oligui a renversé voilà quasiment 2 ans. Pour autant, Yves-Laurent Goma, le président, plaide la rupture avec les vieilles pratiques.
Dans un discours d'une demi-heure, Brice Clotaire Oligui Nguema a décliné l'identité de son parti qu'il dit sociodémocrate. Ses militants s'appellent donc démocrate bâtisseur, auteur du coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne sans partage du PDG, le parti des Bongos. Oligui Nguema a averti que l'UDB ne sera pas une machine de confiscation du pouvoir.
Je ne souhaite pas créer un parti électoraliste qui instrumentalise les élections. Je souhaite avoir un parti qui m'accompagne et non un outil politique qui va être un gouffre dans lequel je dois monnayer des majorités ou des consensus.
Les proches d'Oligui Nguema saluent la naissance de ce parti.
C'est une bonne chose pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir cet outil politique. C'est une bonne chose.
Créer ce parti ne fait que renforcer le processus démocratique dans notre pays.
Très nombreux dans le palais des sports, les jeunes sont plutôt sceptiques.
Si on retrouve encore tous les cas du PDG encore dans son parti, bon, comme tout le monde dit, c'est un PDG bis.
Beaucoup de gens sont venus nous mettre beaucoup d'espoir, mais au final, rien.
Le parti devait présenter des candidats aux élections législatives et locales prévues dans 6 mois si le ministère de l'Intérieur lui délivre toutes les autorisations. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
La contrebande de minerais depuis la République démocratique du Congo vers le Rwanda atteint des records, c'est ce que démontre le rapport d'experts des Nations Unies dont on vous parle depuis quelques jours maintenant sur RFI. Les détails sont à lire sur notre site internet ou sur notre application pour téléphone RFI. La RDC qui maintient par ailleurs le cap dans son programme avec le Fonds monétaire international. Malgré la forte pression que fait peser la guerre dans l'Est sur les finances de l'État, le pays a satisfait à la première évaluation du programme signé avec le FMI. Cela permet un nouveau décaissement immédiat, 260 millions de dollars. Mais le FMI reste préoccupé, Patient Ligodi.
Le FMI reconnaît la bonne performance de la RDC dans la collecte recette. Mais malgré cela, les finances publiques ont enregistré un déficit plus important que prévu. Calixte Aoposi, chef de mission du FMI pour la RDC, explique.
Le critère avait été fixé à environ 522 milliards de francs congolais, c'est-à-dire à peu près 200 millions de déficit. Mais en réalisation, ce qui s'est passé, les recettes ont tenu, mais les dépenses ont été plus larges que prévu. Donc du coup, le déficit s'est creusé et s'est fixé à environ 600 millions de dollars.
Face à cette situation, le gouvernement congolais a revu son budget. Il a adopté un collectif budgétaire pour s'ajuster à la conjoncture. Objectif, rendre le budget plus réaliste. Pour préserver les équilibres et rediriger les investissements vers les secteurs porteurs, le FMI insiste sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier.
Le Fonds monétaire international espère que cet accord va apporter une paix véritable pour permettre à la RDC et à ses voisins de se tourner résolument vers leurs objectifs de développement.
Dans cette logique, le Qatar et les États-Unis appellent Kinshasa et l'AFCM 23 à signer dans les prochains jours à Doha un accord complémentaire à celui de Washington.
Patient Legaudy du service Afrique d'RFI. Au Tchad, ils se disent profondément attristés, indignés par la multiplication des conflits intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs. Les évêques catholiques du Tchad prennent la parole au sortir de leur grande réunion qui s'est tenue jusqu'à hier à N'Djamena. Sur RFI, le président de la conférence épiscopale, qui est l'évêque de Doba, Mgr Martin Wengebani, appelle à une concertation nationale au Tchad en vue de trouver des solutions pérennes.
RFI à Moroni, 103 FM.
Il y a 50 ans, jour pour jour, Ahmed Abdallah proclamait l'indépendance des Comores, toutes les Comores, quatre îles et leurs îlots. Comme l'avait promis le président français Valéry Giscard d'Estaing, nous n'avons pas à briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores, disait le chef de l'État de la puissance coloniale de l'époque. Pourtant, aujourd'hui encore, malgré des condamnations de l'ONU, Mayotte, la quatrième île, est un département français. Une question qui demeure centrale cinq décennies plus tard. Ce 6 juillet 1975, Amina Djoussouf avait 25 ans. Elle était militante pour l'indépendance au sein d'une association étudiante. Elle venait de se marier avec le futur premier ministre comorien Abbas Djoussouf. Elle se souvient.
Je me trouvais chez moi. J'étais là avec mon mari. Et il y avait justement un député de son parti, le RDPC, qui est venu le voir parce qu'ils étaient convoqués tous à la Chambre des députés. Je lui dis, mais dépêche-toi, va vite, tu vas voter pour l'indépendance. Il est parti. Tout de suite après, on a écouté la radio et c'était très émouvant d'entendre le discours du président Ahmed Abdallah. L'ovation, j'étais vraiment heureuse. Pendant 150 ans, la France est restée ici. On avait un seul lycée pour les quatre îles. Il n'y avait pas de route, un seul hôpital. L'évolution normale des Comores, c'était l'indépendance. Bien sûr, quand on nous a dit que c'était une proclamation unilatérale, je savais qu'il faudra s'attendre à des coups de bâton peut-être. C'était un grand défi. La France ne nous a pas fait cadeau. Il y a eu une déstabilisation permanente.
Des coups d'État successifs. Avec l'implication...
Ben oui, de la France par le biais de Bob Denard.
Le fameux mercenaire.
Et tant que Mayotte restera sous occupation française, il faudra continuer le combat.
Un propos recueilli par David Bachet et David qui a aussi interrogé l'historien Damir Ben Ali. Il est notre grand invité Afrique. Juste après ce journal, direction maintenant la grande île voisine, Madagascar, où c'est une barrière invisible à l'accès à l'emploi. Les stéréotypes de genre liés au métier, dans les milieux où les hommes sont surreprésentés, par exemple, comme les travaux publics, ou au contraire, dans les milieux comme la mode, connotée comme féminin, entre guillemets. À Antananarivo, une conférence était organisée ces jours-ci auprès de jeunes de la capitale, des décrocheurs scolaires, pour leur donner à voir une autre voie possible pour le futur. Pauline Le Troquet.
L'une est conductrice de travaux, l'autre dirige une équipe de 90 chauffeurs poids lourds pour l'un des géants de la distribution pétrolière sur l'île. Face à l'Assemblée, les deux femmes prouvent qu'il est possible de trouver sa place dans ces secteurs où les hommes sont surreprésentés, sans omettre pour autant les remarques sexistes subies au travail. Leur histoire résonne chez Sedge, jeune homme de 19 ans.
Moi par exemple, j'ai une sœur qui travaille dans la mécanique et je sais qu'elle est douée et je sens bien que c'est sa passion et que rien ne peut l'arrêter. Donc ça me fait du bien d'entendre aujourd'hui qu'elle n'a pas à être discriminée.
Car les injonctions familiales comme les manuels scolaires encouragent le choix d'un métier selon un genre associé. Fanny Rine, 21 ans, veut voir sa génération dépasser ses clichés de genre dans le monde du travail. Lui est agent administratif chez Made for a Woman, une entreprise de confection d'accessoires en raffia.
Un travail, c'est pas un genre. Il ne faut pas donc passer à côté du potentiel économique de la mode simplement parce que c'est soi-disant un métier de femme.
Ouvrir toutes les portes possibles de l'emploi, c'est la mission que se donne Karina Cole, coordinatrice du Centre d'insertion professionnelle de Graines de Bitume, une association qui accompagne des jeunes de la capitale confrontés à la rue.
Ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que ce qui est important, c'est surtout construire un projet professionnel qui est en accord avec ce qu'on aime, avec notre personnalité, de faire un métier qui nous correspond.
Une démarche novatrice à Madagascar, où la majorité des jeunes, par besoin de survie, se tournent vers un métier par défaut. Pauline Troquier, Antananarivo. RFI.
Il est 8h39 à Gaza, 6h39 à Rabat. Les bombardements indiscriminés de civils par Israël sur l'enclave palestinienne qui continue de susciter la colère. Au Maroc, des universitaires menacent de boycotter le Forum mondial de sociologie qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi prochain à Rabat. Plus de 4500 chercheurs, plus de 100 pays représentés, mais la présence de chercheurs israéliens suscite la controverse. Plusieurs associations ont lancé un mouvement de protestation, parmi lesquelles l'association du boycott académique et culturel d'Israël, MACBI, dont l'un des militants est Sion Assidon. On l'écoute au téléphone RFI d'Ouda Ibrahim.
Nous considérons que ramener des gens qui représentent des institutions de l'occupation, qui aujourd'hui sont fortement impliquées dans le génocide en cours, constitue non seulement un acte de normalisation avec un occupant, mais en plus, dans ces circonstances, un acte odieux, comme si ces gens n'avaient aucune responsabilité dans le génocide en cours. Alors, on a immédiatement lancé l'appel au boycott, expliquant que nous avons affaire à des gens qui représentent des institutions qui jouent un rôle capital dans tout ce qui se passe, puisque toutes les universités, sans exception, il y a une documentation fournie là-dessus, collaborent avec l'armée et collaborent avec l'État pour justifier le discours de l'occupation et justifier la colonisation.
À propos recueilli par Ouda Ibrahim. Direction les salles obscures du Sénégal pour terminer. L'un des ouvrages majeurs de la littérature du XXe siècle, Une si longue lettre, a désormais son adaptation au cinéma. Lors de sa sortie en 1979, le roman publié par l'autrice sénégalaise Maria Maba avait fait beaucoup parler. Il aborde des sujets au travers du prisme de la femme qui était encore rare dans le débat public à l'époque. 46 ans plus tard, le film réalisé par Angèle Diaban montre que les thèmes soulevés par Maria Maba sont d'actualité. Gwendal Lavina.
Tu confonds modernisation et occidentalisation. Nous avons nos coutumes, c'est tout.
Oui, quand ça vous arrange.
Lorsque son mari prend une seconde épouse après 25 ans de mariage, Ramatoulaye choisit de se battre. Polygamie, sororité et émancipation féminine sont les sujets au cœur du livre de Maria Maba et ils traversent toujours la société sénégalaise. L'actrice Amélie Mbaye joue le personnage principal, Ramatoulaye.
Moi, je trouve qu'elle était en avance sur son temps. Oser en parler à cette période-là, mais elle savait comment le faire, comme même si parfois c'était des mots très durs.
Les choses avancent, mais les défis restent nombreux pour les jeunes femmes. Aïssat Assi incarne Bintou, la seconde femme.
Aujourd'hui, on marque déjà nos pas, on commence déjà à gagner certains combats. C'est toujours d'actualité, que ce soit la polygamie, la trahison. Je me dis que c'est chaque jour, c'est un combat. On lutte pour ça, en fait.
Une si longue lettre montre une femme forte qui choisit de questionner ce qui lui est imposé. Un miroir nécessaire, particulièrement aujourd'hui, estime Angèle Diabang, la réalisatrice.
J'ai l'impression qu'il y a un petit recul en arrière qui fait que la femme d'aujourd'hui, elle est un peu déséquilibrée entre cet ancrage-là traditionnel et cette envie très forte de vivre à l'époque d'aujourd'hui qui est très mondialisation, où on est dans les réseaux sociaux. Donc c'est très compliqué pour cette femme ou cette jeune fille aussi de dire où est ma place, qu'est-ce que je fais.
Fruit de 12 ans de travail, le film réussit avec brio le passage à l'écran d'une œuvre dont le message n'a peut-être jamais été autant d'actualité. Gwendal Lavina, Dakar.